à tous et bienvenue autour de cette grande table du jeudi. Dire stop, une épreuve en démocratie. Il a enquêté sur la décision du gouvernement de privatiser les aéroports de Paris et sur la mobilisation citoyenne que cette annonce a provoquée. À partir de 12h55, rendez-vous avec le journaliste et créateur du site Arrêt sur Image, Daniel Schneiderman, auteur de Pouvoir dire stop aux arènes. Pendant ce temps, dans le nouveau roman du romancier Fabrice Humbert, c'est un journaliste narrateur qui enquête sur le traitement médiatique de l'affaire Ethan Shaw, l'auteur de L'origine de la violence et de Comment vivre en héros, revient en librairie avec Le monde n'existe pas chez Gallimard et prétend comme son narrateur que tout ce que nous vivons est un livre ou un film. Fabrice Humbert est là pour s'en expliquer autour de cette grande table à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Comment y croire? Ethan Shaw est accusé de viol et du meurtre d'une jeune Mexicaine. Lui, l'ex-star du lycée, geste fluide, confiance en soi, coureur de filles et sportif hors pair, blond et élégant à la manière de Robert Redford dans The Way We Were de Sidney Pollack. Tout le contraire d'Adam, garçon fragile et hésitant, les années ont passé, devenu journaliste au New Yorker. Il retourne dans la ville de Dryden, dans le Colorado, pour enquêter la ville où il a grandi. Bonjour à vous Fabrice Humbert.
Bonjour.
L'Amérique, encore au cœur de ce nouveau roman, Le monde n'existe pas chez Gallimard. Pourquoi? C'est le territoire fictionnel par excellence pour vous, l'Amérique?
Oui, exactement. C'est... D'abord, je crois que l'éloignement est assez bon en narration. Vous savez, c'était un peu la règle classique chez Racine, par exemple, l'idée qu'il fallait que ce soit loin. Et moi, j'aime l'éloignement, mais le choix des États-Unis ici s'imposait parce que les États-Unis, c'est peut-être un territoire qui existe, mais c'est surtout un territoire de fiction. Et en général, lorsqu'on imagine les États-Unis, ce qu'on voit, ce sont des films. Et donc, dans un livre sur l'illusion, forcément, les États-Unis, c'était le bon choix.
Le titre du roman, Le monde n'existait pas, se raconte page 66. Et je vous propose d'ouvrir votre exemplaire à cette page-là. Le titre du roman s'y dévoile, mais votre imaginaire américain aussi. Pouvez-vous nous lire cet extrait de « Je prétends » jusqu'à la dévoiler?
Alors, le narrateur est arrivé dans la ville de Dresden. « Je prétends que tout ce que nous vivons est un livre ou un film. En tout cas, une fiction, recomposée ou non. Le film en cours s'intitulait « Retour à Dresden ». Je logeais dans un décor de film policier. La route qui serpentait dans les montagnes était celle de « Shining ». Comme dans le film de Kubrick, une caméra dans un hélicoptère avait filmé le trajet de la voiture. Dresden n'existait pas. Le monde n'existe pas. Le monde est une histoire pleine de bruit et de fureur. Je revenais dans mon passé, à la recherche d'Ethan Shaw, à la recherche du sens de la fureur. Je devais me dégager des représentations pour trouver la vérité. Mais est-il possible, dans le monde des images et des récits, de la dévoiler ?
À partir de là, ce qui est vrai, ce qui est faux, Fabrice Humbert, on ne saura plus dans ce roman. On avance à tâtons, comme le narrateur, hein, dans une réalité mouvante. Comment vous l'expliquez, cette idée d'un monde qui n'existe pas? Est-ce que vous croyez que vraiment aujourd'hui, la fiction et la réalité se rejoignent souvent, très souvent, trop souvent?
Oui, je pense que la fiction et la réalité se rejoignent. Je pense que c'est aussi... notre nature qui est fictionnelle. Je pense que l'histoire humaine est faite de fiction réalisée. Et je crois qu'en tant qu'individu, nous sommes traversés de fiction, nous sommes une idée de nous-mêmes, nous sommes une image. Et nous sommes en quelque sorte une illusion de nous-mêmes. Et peut-être que ça pose pas de problème, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que notre moi est traversé de fiction. Et simplement, moi, j'y étais peut-être plus sensible qu'un autre parce que j'ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence à lire. Et de façon obsessionnelle, à mon avis, maintenant avec le recul, maladive, comme une bulle de protection. Et le fait est que jusqu'à un âge trop avancé, je me demandais si j'étais un personnage ou une personne, parce qu'en fait, j'avais pas de vie propre puisque j'étais uniquement dans les personnages. Et donc ensuite, j'ai été sensible à cet aspect-là des choses et des êtres, à cette fiction qui traverse les gens. Et même durant mes études, j'ai fait ma thèse sur un auteur peu connu, Louis Calafert. Je travaillais sur l'autobiographie, qui est vraiment un thème qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que cet écrivain avait raconté une autobiographie qui était prise par tout le monde comme la vérité. Et en réalité, c'était une fiction, c'est-à-dire qu'il s'était inventé. Donc les personnages à la Romain Gary, les personnages à la Blaise Cendrars, qui sont vraiment des inventions de soi, m'ont toujours fasciné, comme les mythomanes d'ailleurs. Et je crois que ces êtres qui s'inventent des vies sont simplement la forme la plus avancée de notre humanité, en quelque sorte, mais qu'on est tous des êtres à moitié fictionnels.
Fabrice Imbert n'est peut-être pas votre vrai nom.
Alors Fabrice Imbert n'est peut-être pas mon vrai nom, d'où souvent, effectivement, des espèces de présentations de soi avec des doubles noms, par exemple dans l'origine de La Violence, le narrateur qui était très proche de moi... avait plusieurs noms, il recherchait un être qui s'appelait Wagner, mais qui en fait dans sa famille avait un autre nom, donc oui, il y a toujours des doubles noms. Ouais.
Et sur votre page Wikipédia, il est écrit que vous n'avez pas souhaité indiquer votre date de naissance. C'est vous qui l'avez rédigée cette page ?
Alors non, je ne l'ai pas rédigée et on m'a souvent dit qu'il fallait que je m'en occupe parce que comme c'était un patchwork de plein de gens, ça n'avait plus trop de sens. Mais le fait est que effectivement, j'ai jamais donné mon âge à qui que ce soit. En effet,
alors pourquoi après, c'est une coquetterie ou c'est un choix? Aujourd'hui aussi, on est marqué par cette empreinte digitale, hein, par toutes les traces et toutes les informations qu'on dit ou qu'on donne à ce grand territoire qu'est Internet.
Alors il y a sans doute de la coquetterie. Après il y a une obsession du temps et puis il y a aussi des volontés sans doute de pas laisser trop de traces.
Voilà, tout est réuni. Vous avez coché les trois cases en fait. C'est facile. Pour accentuer le trouble de ce monde qui n'existe pas, de cette réalité et de cette fiction qui se confondent, vous écrivez des romans, Fabrice Imbert. Est-ce qu'à travers eux, vous vous racontez ? Est-ce que c'est votre vie que vous réinventez dans ces romans ?
Alors, sans doute. Et parfois de façon un peu désagréable. Alors, on pourrait dire tout bonnement, un roman s'écrit toujours à partir de quelque chose, donc forcément on se raconte. Mais je crois que ça ne dit pas la vérité des choses. La vérité des choses, c'est que très étrangement, on découvre parfois qu'on s'est raconté alors qu'on n'aurait jamais voulu le faire. Et il se trouve que dans ces deux personnages, donc le personnage du narrateur-enquêteur Adam Volman, et puis dans le personnage qu'il recherche, Ethan Shaw, de façon assez récente, c'était en octobre, tout d'un coup j'ai une révélation, c'est que les deux c'était moi. Et en fait c'était un peu désagréable de le voir parce que j'en avais pas du tout conscience en l'écrivant, et c'est en relisant pour les épreuves que tout d'un coup j'ai compris que j'avais raconté des choses.
En quoi ils étaient vous ? Pas forcément sur leurs identités, qui sont multiples et que vous racontez dans ce roman, leurs personnalités telles que vous les avez campées, qui sont d'ailleurs assez opposées, mais plutôt dans leur manière de regarder le monde, dans les représentations qu'ils s'en font.
Alors, on ne va peut-être pas trop s'engager sur ces, sur ces questions-là, mais Ethan Shaw, dans sa version... je dirais expansionniste, c'est un être très positif, que tout le monde regarde, qui est la star de son lycée. Et puis, inversement, vous avez cet être caché qui est Adam, qui est fragile, qui regarde Ethan. Et finalement, parfois, on se demande s'il ne voit pas le monde et les séductions du monde uniquement à travers son ami Ethan. Donc, dans ce double portrait d'intériorité et d'extériorité, il doit sans doute y avoir des choses de moi.
Vous venez d'évoquer cette boulimie de lecture qui était la vôtre à l'adolescence, tous ces livres qui vous ont marqué, imprégné et qui ont créé probablement en vous ce que William Marx, qu'on recevait récemment professeur en littérature autour de cette grande table qui fait son entrée au Collège de France et qui va justement ce soir prononcer sa leçon inaugurale, ce qu'il appelle nos bibliothèques mentales, tous ces livres qui ont aussi marqué, forgé notre regard et ce que nous sommes. On parle de bibliothèque mentale, on pourrait aussi parler avec vous de sonothèque ou de discothèque, un monde de bruit et de fureur, disiez-vous, un monde où le son est une illusion fictionnelle, écrivez-vous dans la voix de votre narrateur, qui l'aurait appris en regardant Raging Bull de Scorsese.
Bonne chance. La mota boxe en croûte. Rive se mesure à un grand bagarreur, un homme qui est un abonné du forcing. La mota continue à l'agacer. Il fiche son jus de jambe, il fiche à chaque gauche à la mâchoire qui descend Rive sur le coup. La foule pure en ses encouragements à la mota.
Et vous ? Qu'est-ce que vous entendez là, dans cet extrait ? Qu'entendez-vous, Fabrice Imbert ?
Alors, dans cet extrait, j'entends ce qui est censé être des coups de poing. Et en fait, ces sons n'ont jamais existé. C'est-à-dire que jamais un coup de poing, même avec un gant, ne peut donner cette sonorité. Et j'ai fait 20 ans de boxe, donc pour le coup, je suis bien placé pour le dire, mais j'ai appris en fait comment ces sons avaient été faits, parce que je suis retourné à l'école il y a 4-5 ans, dans une université de cinéma, et le professeur qui était Bruno Toussaint nous a révélé que ces sons-là étaient en fait une création du directeur du son, qui avait emmagasiné une série de micro-sons d'une demi-seconde ou d'un éclat de seconde, et qu'il avait fallu environ un rassemblement de 25 ou 30 de ces micro-sons, qui allaient du pas de cheval au bruit d'une voiture, pour produire ce son d'un coup de poing, qui n'a jamais existé et qui est une pure illusion dans l'esprit des gens. Mais ce qui m'avait encore plus fasciné à la suite de ce cours, c'est lorsqu'il avait fait passer un autre extrait qui était un bruit d'explosion. Et en fait, j'ai appris, parce que pour le coup, les explosifs, je connais beaucoup moins bien que la boxe, j'ai appris qu'il n'y avait jamais de véritable explosion au cinéma. Et c'était pas parce qu'il était impossible de les faire, parce que maintenant, il serait tout à fait possible d'utiliser de véritables explosifs. Mais c'est simplement que les gens ont, à cause du cinéma, une idée tellement précise de ce qu'est une explosion qu'on ne peut plus utiliser le vrai bruit d'une explosion. Donc en fait, on s'ingénie à retrouver l'esprit des gens, ce que les gens se représentent comme bruit d'une explosion. Donc en général, il faut utiliser des barils vides afin de faire l'écho d'une explosion, parce que le bruit d'une explosion est un bruit beaucoup plus mat et étouffé que ce qu'est l'explosion dans un film de cinéma.
Et ça nous dit quoi du monde ?
Ça nous dit à la fois que les illusions sont omniprésentes, mais aussi qu'elles nous sont devenues nécessaires finalement. C'est un petit peu comme si on avait une béquille qui était devenue notre troisième jambe. Mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que c'est notre nature. Je crois que nous sommes des créations d'illusions en quelque sorte, et que c'est ainsi que le monde progresse pour le meilleur ou pour le pire.
Et on voit, on l'entend à travers ce que vous racontez, que tout ce que vous entendez, ces choses vues et entendues, vont nourrir votre propre fabrique de l'illusion, votre propre fabrique fictionnelle, puisqu'on retrouve dans la voix de votre narrateur cette analyse du son qui devient un moment clé, charnière aussi du roman. À ce moment-là, il écoute un enregistrement, il songe à la mécanique narrative de ce fait divers qu'il essaye de décrypter, et il dit... Il raconte ce que vous nous avez dit, hein. Rien n'est plus travaillé que le son au cinéma. Il raconte cette découverte du travail du son à partir de ce coup de poing dans le film de Scorsese, cette forme étouffée du son qui éclate dans la tête du boxeur, cette combinaison d'une trentaine de micro-sonorités, parfois davantage minutieusement rassemblées. C'est aussi ça qu'on comprend dans votre manière de passer de ce quotidien, de ces choses vues et entendues à votre roman. J'aimerais qu'on en revienne à cette ville de Dresden, où le narrateur, à ce moment-là journaliste au New Yorker, il a grandi, revient pour enquêter sur ce fait divers, sur ce qui a pu se passer, essayer de comprendre si Ethan Shaw est coupable ou innocent. Dresden, on l'aura compris, écrivez-vous, il y a pour moi en ce lieu la concentration de tout ce que je déteste en Amérique, comme beaucoup d'Américains d'ailleurs, qui haïssent cette part de notre pays. La petitesse, le conformisme, l'absence totale d'intelligence et de curiosité jusqu'à la fermeture, l'amour excessif de la force et de la virilité, l'appétit sordide du gain, sans même la démesure cupide qui distingue certains habitants des grandes villes. Alors les politologues, pour faire court, Fabrice Imbert, plus court que le romancier, parlerait de Dresden comme de l'Amérique de Trump. C'est aussi ça pour vous ?
Alors, la ville de Dresden est un mélange, un petit peu comme les concrétions de son, là. C'est en fait le mélange de deux villes pour moi. C'est-à-dire que, adolescent, je suis allé aux États-Unis dans une ville du Colorado que j'ai beaucoup aimée et qui est effectivement très liée à la nature, cette nature dont je parle à l'intérieur du livre, et qui a été pour moi une image édénique des États-Unis. Et depuis, j'en ai vu d'autres, certaines édéniques et d'autres infernales. Et l'autre vision infernale, eh bien, ça a été le Dakota du Nord. J'ai été, alors je ne suis pas journaliste, mais j'ai été envoyé faire un reportage une fois par une revue aux États-Unis dans le Dakota du Nord sur le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Et là, j'ai vu une part des États-Unis que je ne connaissais pas du tout, alors que j'avais fait un tour des États-Unis. Mais là, vraiment, j'ai vu la face la plus noire des États-Unis, à savoir des milliers de jeunes gens. Enfin, ils avaient eu, en gros, une trentaine d'années. Qui venaient de tous les coins de l'Amérique et qui s'étaient réunis pour le gaz de schiste et de pétrole schiste où on pouvait gagner beaucoup d'argent rapidement. Hein. Vraiment pour des ouvriers, c'était des sommes très très importantes. Hein. C'était 100 000 dollars par an. Là, c'était partout la violence. Dans les bars le soir, c'était terrifiant. Le fait d'être français, et puis moi, je croyais bien faire, donc je dis, pour expliquer mes questions, etc., je suis journaliste français. Le seul mot de journaliste, c'était vraiment insupportable, au point qu'il y en a un qui m'a menacé, qui m'a fait sortir d'une cantine où il se trouvait. Et honnêtement, ils avaient des gabarits qui étaient très impressionnants. Juste à côté de cette ville de mineurs, ce qui m'avait frappé en y allant, c'est qu'il y avait ce qui se présentait comme une ville qui faisait en fait 70 mètres sans exagérer, un groupement de maisons. Et il y avait à l'entrée un énorme panneau avec les 10 commandements, mais énorme, hein, peut-être 20 mètres qui présentaient les 10 commandements. Et 70 mètres plus loin, à la sortie, un autre panneau avec les 10 commandements, voilà, en nous disant d'obéir aux 10 commandements. Et donc cette Amérique vraiment de violence, d'obsession religieuse, le tout sous une chaleur mais absolument écrasante et qui se réverbérait sur les rues et qui vraiment nous enveloppait, avec un seul restaurant qui existait et où je devais de me nourrir et qui au contraire était totalement glacé, eh bien ces images m'ont vraiment beaucoup servi pour Dresden, et toute cette description que je viens de vous faire, vous en reconnaîtrez une partie dans le livre.
Voilà, est-ce qu'il y a une, deux ou plusieurs Amériques ? Est-ce que New York est moins conformiste à sa manière que cette ville du Colorado, Dresden, qui est le décor de votre roman, Fabrice Imbert ? Je laisse la question en suspens et je vous propose tout de suite de repartir en musique. Entre réalité et la fiction. On peut choisir peut-être, vous l'évoquiez, la manière de recomposer ce monde avec pessimisme ou optimisme. L'optimisme, c'était le parti pris des Monty Python dans cette chanson phare du film La vie de Brian, sortie en 79.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
Scène finale de La vie de Brian, réalisée par Terry Jones, dont on a appris la mort à l'âge de 77 ans hier. Adieu à lui. Les Monty Python, Fabrice Imbert. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de votre paysage cinématographique. On a déjà évoqué Pollack, Kubrick, Scorsese comme autant de références glanées dans ce nouveau roman, Le monde n'existe pas. Fabrice Imbert qui paraît chez Gallimard. Et on peut y noter aussi l'omniprésence des écrans. Qu'est-ce qu'il reflète pour vous aujourd'hui, la projection du monde? Dirait peut-être encore Stanley Cavell.
Alors, juste pour revenir sur les Monty Python, alors oui, ça fait partie de mon imaginaire, surtout pour le lapin. Le lapin dans Sacré Graal, qui est un lapin parfaitement inoffensif et qui se met à déchiqueter les chevaliers. Ça, non seulement j'avais adoré, mais j'y pense très souvent. Et sinon, sur... écoutez les écrans, voilà. En fait, je trouve qu'il est difficile de parler des écrans.
À la radio.
En plus. C'est clair, à la radio. Mais en plus parce que on est pris dans 40 000 discours sur les écrans, et donc c'est difficile d'en produire un soi-même.
Ça veut dire que vous dites, ils sont là. De toute façon, oui, on peut plus passer à côté.
Non, de toute façon, ils sont là. Ce sont des images de la réalité. La réalité est vue à travers des images. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Le fait est qu'il y a une dématérialisation et que les êtres eux-mêmes sont pris dans cette dématérialisation et que, oui, on se rapproche tous de la fiction, et c'est quelque chose qu'on peut voir comme une dissolution, hein, c'est tout à fait possible, et en même temps, voilà, c'est simplement c'est une évolution, je saurais pas trop quoi en dire, justement, parce que vraiment sur le fait même des écrans, comme c'est notre nouvelle réalité, tout le monde finalement réagit sur les écrans, interdit les écrans, est fasciné par les écrans, etc. Donc je ne produirai pas un discours supplémentaire sur les écrans.
Dans ce roman, Le monde n'existait pas, c'est aussi un roman de la jeunesse, hein, et un roman de la post-vérité, peut-être on va pouvoir le qualifier comme tel, Fabrice Imbert, on l'évoquait. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Où commence le fantasme et où s'arrête la réalité? Le rêve et la folie comme envers du réel, écrivez-vous, et pourtant je sais bien que je ne rêve pas, que je ne suis pas fou. Il faut bien que je m'accroche à cette certitude-là, parce que dans un monde paranoïaque par nature, un monde capable de créer une réalité fausse comme la nôtre, est forcément paranoïaque. La certitude l'attitude tient de la volonté. Ce nouveau roman, vous le signez chez Gallimard, Fabrice Imbert. Il nous reste quelques minutes. Je voulais juste évoquer avec vous le livre qui vous a fait connaître il y a 10 ans, L'origine de la violence, multiprimée. L'histoire d'un prof qui, avec ses élèves, va visiter le camp de concentration de Buchenwald. Et il est interpellé par la photo d'un détenu qui ressemble à son père. Une ressemblance qui va le hanter. Il va, là encore, décider d'enquêter. Alors, on vous a déjà questionné sur la part autobiographique de ce roman. La question que je voulais vous poser, puisqu'on est en ce moment en train de commémorer les 75 ans de la libération des camps, qu'il n'y aura bientôt peut-être plus de survivants pour témoigner, c'est celle de la place des livres, de la fiction, pour entretenir cette mémoire. Est-ce que demain, il ne restera peut-être plus que ça? Est-ce qu'elle est essentielle, cette place?
Alors effectivement, c'est une vraie et profonde question. C'est-à-dire que quand j'ai écrit L'origine de la violence, il y avait encore beaucoup de survivants. Et maintenant, il n'y en aura plus. Mais déjà, il était difficile d'écrire sur les camps lorsque on n'était pas un survivant des camps. En tout cas, personnellement, je ressentais une espèce d'interdit, une forme de transgression, de gêne et surtout de mensonge. Déjà, sans doute, j'avais l'idée du mensonge. Et à l'époque, ce qui m'avait néanmoins incité à écrire... alors que j'étais voilà sous le poids des grands livres des survivants, à commencer par Primo Levi, Si c'est un homme, qui est un de mes livres de chevet, non pas seulement sur les camps, mais sur ce qu'est l'homme. Donc il y avait tout de même un livre, L'écriture ou la vie, qui m'avait aidé à écrire. C'est-à-dire que dans L'écriture ou la vie, ce qui nous est dit, c'est que il faut de la fiction. Et ce qu'il disait même, c'était qu'il fallait des films. Or, la question de la représentation des camps et Samprin en parle lorsqu'il est à l'intérieur du camp en 1944. Donc la question de la représentation du camp, elle va quand même être très problématique. Lanzmann en a beaucoup parlé par la suite. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il faut de la fiction. Parce que sinon, il n'y aura plus personne pour parler des camps et de ce qui était arrivé. Donc oui, c'est absolument certain, et si ça m'a permis il y a 10 ans d'écrire ce livre malgré la transgression, eh bien c'est valable désormais à jamais, si je puis dire, puisque effectivement les survivants sont en train de disparaître.
Voilà l'idée d'une fiction qui pourrait prendre le relais du récit. Merci beaucoup à vous, Fabrice Imbert, d'avoir été autour de cette grande table.
Merci.
Et juste pour vous dire que les 67, il y aura une journée spéciale hein, sur France Culture ce lundi où l'on reviendra avec nos invités aussi autour de la grande table sur les 75 ans après la libération des camps. Merci à tous.